François Hesbourg, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des responsables de l'Institut international d'études stratégiques qui est basé à Londres. Vous êtes également conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique et vous êtes l'auteur d'un dernier ouvrage, Les leçons d'une guerre, qui sont sortis hier chez Odile Jacob. Bien évidemment, il est question de la guerre en Ukraine et nous sommes à la veille de ce triste premier anniversaire. Ce sera demain, le 24 février, un an, jour pour jour, où la Russie a envahi l'Ukraine. François Hesbourg, quelles leçons peut-on tirer de cette guerre voulue et déclenchée par Vladimir Poutine ?
Bon, j'allais dire, certaines des leçons sont bien connues, à savoir que quand on veut s'approprier un pays grand comme la France, il faut y mettre les moyens et avoir un bon plan. C'est ce que la Russie n'avait pas assez de moyens et surtout une très mauvaise planification politique et opérationnelle. Mais il y a des leçons, j'allais dire, moins intuitives. La première, c'est que cette guerre ne concerne pas seulement l'Europe, même si elle se déroule en Europe, et qu'à ce titre, elle est vue, y compris par les non-européens, comme une affaire qui affecterait l'Europe, et que donc, si on est africain ou latino-américain, et on peut s'en désintéresser. Ça, ce n'est pas la bonne leçon. La leçon, c'est que les rapports de force entre les États-Unis, bien sûr, et la Russie, mais aussi la Russie et la Chine, l'Inde également, sont tout autant impactés. Et on voit bien le rôle que joue aujourd'hui dans les calculs russes et occidentaux, le rôle de ces deux grandes puissances asiatiques. Et donc il faut vraiment regarder l'affaire comme une affaire ayant un impact mondial. Seconde leçon, c'est que pour réussir dans la guerre, il ne suffit pas d'avoir le matériel, il faut aussi avoir l'organisation et la motivation. Or, en matière d'organisation, compte tenu de ce que sont les nouvelles technologies militaire. On a tous vu à l'œuvre les drones, les défenses antiaériennes, les bateaux, même les robots maritimes et ainsi de suite. Il faut avoir une organisation non pas fortement hiérarchique comme l'armée russe qui elle-même est une ressuscité de l'armée soviétique. Il faut avoir une excellente intégration entre les moyens militaires proprement dit et les populations qui les servent. L'Ukraine, à certains égards, ressemble davantage à Israël au plan politico-militaire qu'à la Russie, bien sûr, ou même aux États-Unis. On a vu l'importance qu'avait la population civile, car toujours aujourd'hui, la maîtrise des technologies de l'information pour faire de façon efficace la guerre. Ça, c'est une très, très grande leçon.
C'est ce que les Israéliens appellent le front de l'intérieur. Il y a d'ailleurs un commandement du front de l'intérieur en Israël.
Absolument.
Et c'est cela, donc, qui est mis en pratique par les Ukrainiens.
Voilà, ce n'est pas, j'allais dire, ce n'est pas une surprise pour Israël, mais c'est une surprise pour beaucoup d'autres pays. Parce que quand il s'agit d'Israël, on n'oublie jamais, bien sûr, qu'Israël est un petit pays territorialement et démographiquement. Et ce qui s'applique au niveau des petits États ne s'applique pas forcément au niveau des grands États. Or, la guerre d'Ukraine nous montre que c'est probablement encore plus important pour les grands États que pour les petits. L'Ukraine, c'est plus grand que la France. C'est 4 fois plus peuplé qu'Israël, un peu plus d'ailleurs. Et la Russie, qui ne joue pas avec les mêmes atouts, qui n'est pas organisée de la même façon, en paye le prix tant au plan militaire qu'au plan humain.
Vous savez que par certains côtés, cette invasion russe de l'Ukraine me rappelle, toute proportion gardée, l'invasion de l'Irak au Koweït dans les années 90. Tout le monde avait peur de l'armée irakienne et même de cette fameuse garde présidentielle. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, ils étaient ni équipés, ni structurés, ni commandés convenablement. Est-ce qu'on peut, d'une certaine façon, faire le même parallèle ?
Seulement dans une mesure limitée, pour une raison assez simple, et c'est pour ça que je ne mets pas en parallèle l'Ukraine et les États-Unis. Il n'y avait pas de doute pendant la guerre du Golfe que les États-Unis et leurs partenaires, puisque c'était à l'époque une très large coalition, ce n'est pas comme la guerre d'Irak qui a eu lieu une vingtaine d'années plus tard, mais la guerre du Golfe, il y avait 500 000 soldats des Nations Unies avec les États-Unis à la tête. Et oui, on craignait les Irakiens, on s'est aperçu qu'au fond on avait tort, mais il n'y avait pas de doute sur le rapport de force.
Ouais.
Là, on est dans une situation tout à fait inverse, à savoir que l'Ukraine, au moment de l'invasion russe, c'était le petit chose par rapport à la grosse bête, russe.
Ouais.
La capacité des Ukrainiens à prendre le dessus dans des conditions parfois funambulesques, il n'y a pas d'autre mot, ça a été une vraie surprise. Et là, effectivement, l'analogie avec Israël revient. On peut penser un petit peu à la guerre des six jours, où un Israël qui était, en termes de chiffres, de soldats, de tanks, d'avions et ainsi de suite, Israël était inférieur à ses adversaires arabes. Mais on s'est aperçu très rapidement qu'évidemment, ce sont les Israéliens qui avaient gagné cette guerre et non pas les Égyptiens ou les Syriens ou les Jordaniens. Mais dorénavant, nous sommes dans une généralisation de ce type de constat. Et tout ceci dans une situation où on opère à l'ombre du nucléaire, puisque la Russie est une superpuissance nucléaire, et qu'il a fallu constamment mesurer les efforts et les niveaux d'aide et ainsi de suite à l'Ukraine, de crainte de se tromper quant à l'analyse de ce que les Russes pourraient être tenter de faire au plan nucléaire. Là aussi, il y a des leçons importantes, mais qui sont moins novatrices, tout simplement dans le sens où on s'aperçoit que les règles du jeu qu'on avait bâties pendant la guerre froide et qui avaient permis d'éviter que la guerre froide ne devienne la troisième guerre mondiale, et qu'en fait, ces leçons-là, on n'aurait pas dû les oublier.
Et on les a oubliées.
D'abord, beaucoup ne les avaient tout simplement pas apprises pour des raisons d'âge. Le président Macron est né pendant les années 1970. Il a été socialisé après la fin de la guerre froide. Et il en va de même pour la plupart des dirigeants qui sont aux affaires actuellement, à l'exception précisément de Biden et de Poutine.
Ouais. Autre leçon, François Hesbourg, c'est l'unité dans la réponse à l'invasion russe de l'Ukraine. Beaucoup ont dit que les Européens avaient des politiques différentes, des approches différentes, des sensibilités différentes. L'Europe tient sur ce dossier-là.
Mais avant de s'en féliciter trop bruyamment, il faut quand même rappeler que ce sont les États-Unis qui ont, en quelque part, dimensionné le niveau de l'effort, qui l'ont modulé.
D'ailleurs, je vous interromps volontairement, les États-Unis, d'ailleurs, dont on disait qu'ils se retirent de tous les théâtres d'opérations internationaux même, et qu'ils se concentrent vraiment sur eux-mêmes, un peu de protectionnisme, même à l'échelon international. Et les États-Unis ont prouvé que ils sont toujours là à l'international.
Non seulement ils ont démontré cela, mais ils ont surtout montré qu'il ne fallait pas avoir une espèce de lecture un peu mécanique de la montée de la Chine avec la notion que puisque la Chine dorénavant représente le principal défi stratégique pour les États-Unis, ce qui est le cas, c'est absolument pas faux, et que donc les États-Unis allaient ménager leur réaction par rapport aux événements en Ukraine. Et ça a été une très grosse erreur de lecture. Je pense que c'est une erreur de lecture qu'ont fait les Russes. Ça explique, je pense, en partie leur échec. Ils ont mal jugé de ce qu'allait être la décision américaine qui était un petit peu contre-intuitive parce qu'il y a aux États-Unis des gens, dont l'ex-président Trump, qui effectivement tiennent ce discours. On en fait trop pour l'Ukraine et ça va nous empêcher de peser face à la Chine qui est la vraie priorité. Mais la lecture réelle des responsables en place dans l'exécutif américain, mais aussi au Congrès, y compris dans la majorité des républicains au Congrès, la lecture a été au contraire celle d'une Amérique qui devait absolument réussir à sauver l'Ukraine, parce que si les États-Unis n'arrivaient pas à opérer de façon efficace face à la Russie, pays qui a le PIB de l'Italie, c'est quand même pas une superpuissance économique. La Russie, même si elle produit beaucoup de gaz et de pétrole, si les États-Unis ne parvenaient pas à tenir dragée haute vis-à-vis de la Russie, il y avait peu de chances pour que la Chine soit dissuadée le moment venu de s'en prendre à Taïwan. Donc le facteur chinois a beaucoup pesé dans la décision américaine, mais pas dans le sens et que l'ont imaginé certains politiques comme Trump ou certains experts comme le professeur Mearsheimer, pour citer l'un des plus connus d'entre eux. Et le facteur chinois a été apaisé de la même façon que le facteur chinois a pesé dans les décisions russes, mais là aussi d'une manière inattendue. Pour la Russie, espérait avoir un soutien inconditionnel de la Chine et pensait l'avoir avec la déclaration du 4 février 2022 rappelant l'amitié sans limite de la Chine et de la Russie. Et en pratique, c'est la Chine qui va intervenir en disant aux Russes, écoutez, l'histoire nucléaire, surtout ne jouez pas aux imbéciles, ça pourrait vous coûter très cher, et de notre part, et de celle d'autres États asiatiques, puisque l'Inde, pays ami de la Russie, a elle aussi pesé de façon publique, comme l'a fait la Chine, contre tout recours par la Russie à la menace nucléaire.
François Hesbourg, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom et pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes l'un des responsables de l'Institut international d'études stratégiques qui est basé à Londres. Vous êtes également conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, cette fois c'est en France, à Paris, et que vous êtes l'auteur d'un nouvel ouvrage, Les leçons d'une guerre, c'est paru aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous. Bonsoir.
Merci à vous.